France Inter.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme chaque samedi, on se retrouve pour Zoom Zoom Zen en version best-of, un condensé du meilleur de nous en une heure, sorte d'huile essentielle de Zoom Zoom Zen. Oui, c'est extrêmement précieux et pourtant c'est gratuit, car le gai savoir doit toujours rester gratuit. À mes côtés, deux journalistes résolument jeunes et gays, Manon Mariani et Quentin Lui, prêts à vous offrir une veille sanitaire de haute volée et un micro-trottoir toujours complètement à la rue. Le best-of de Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Elsa Wolinski, Claire Fournier, bonjour à toutes
bonjour.
Les deux. Merci d'être avec nous sur Inter. Elsa, vous êtes journaliste, écrivaine, entrepreneuse, vous êtes à l'origine du podcast sur la ménopause Allez, j'ose. Et Claire Fournier, vous êtes aussi journaliste, éditorialiste économique sur LCI. Et vous aussi, vous avez votre podcast Chaud dedans, où vous parlez, entre autres, on va dire, du tabou autour de la ménopause. Elsa, Claire, est-ce que vous avez le sentiment que ce tabou autour de la ménopause, il est en train de sauter quand même là?
Oui, vous avez vu des articles sans doute dans Le Monde, Le Figaro, même les Échos Week-end,
c'est comment dire. On connaît la
patte
de Dominique.
Donc vous avez l'impression que ça devient un sujet mainstream. Or, en réalité, en entreprise, dans sa boîte, avec ses collègues, avec son conjoint, sa conjointe, c'est un peu plus difficile.
Ouais, ça devient un sujet un peu à la mode, comme la sororité à un moment. C'est-à-dire, bientôt, on va se dire que la ménopause, c'est un mot galvaudé, presque, alors qu'on n'a même pas commencé d'en parler, c'est déjà galvaudé. Ouais.
Non, donc il faut continuer, on n'est qu'au début.
Ah bah que, on est vraiment, au balbutiement.
Et on n'est qu'au début de cette émission, on va en parler durant une heure. Mais d'abord, afin de planter le décor et d'introduire le sujet de la ménopause, qui de mieux placé, qui de plus légitime qu'un bon vieux mâle blanc cisgenre? En bout de table, mesdames, derrière cette barbe blanche patriarcale, encore parsemée de gouttes de poivron, vestige émouvant de notre déjeuner d'hier, un homme s'apprête à vous mansplainer. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour, c'était des poivrons gouttes, vous n'y connaissez rien.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Rien, à rien.
Des gouttes de poivron.
Oui, mais c'est des poivrons gouttes.
Oh là là.
Vous êtes sûr?
Allez, pose la question.
Cyril, dites-nous, sans plus tarder, la périménopause, d'où ça sort?
Eh bien, si j'en crois la spécialiste de l'histoire de la médecine, Alison Doam Moore, alors la ménopause est connue depuis des lustres. Déjà même 5 siècles avant Jésus-Christ, notre sauveur. Enfin, en tout cas, les symptômes de la ménopause, c'est-à-dire la fin de la menstruation et de la possibilité de faire des enfants. Pour cette chercheuse, l'Hippocrate l'avait même déjà intégré. Mais le mot, lui, n'existait pas. Et avant qu'on le voie apparaître, il va falloir attendre un paquet d'années. Plus de 2000 ans, en fait. C'est en 1821 que Charles-Louis Prosper de Gardanne invente le concept de ménopause. Avant le 19e siècle, pour parler du moment de la ménopause, on pouvait parler de fin de règle ou de l'âge critique. Un terme qui en dit long sur le regard que la société portait aux femmes.
Alors Cyril, c'est qui ce Charles-Louis Prosper de Gardanne?
Un docteur en médecine de la faculté de Paris, et c'est en 1812 qu'il commence à travailler sur ce moment où les femmes n'ont plus leurs règles. Il publie d'abord un premier livre, Avis aux femmes qui entrent dans l'âge critique, on y revient, nous sommes en 1816. Charles-Louis Prosper de Gardanne utilise à ce moment-là le terme de ménesposie, un mot issu du grec et du latin, ménos pour moi et donc par extension menstrue, et posie pour arrêt, ça nous donne ménesposie, fin des menstruations. Terme qu'il va changer dans la deuxième édition de son bouquin en 1821. Et c'est comme ça que, sous vos yeux éblouis, depuis 203 ans, on utilise le mot ménopause. Alors, qu'est-ce que ça change, la ménopause, pour une femme? Si on la connaît depuis si longtemps, pourquoi est-elle encore taboue? Est-ce que la périménopause va prendre le relais du mot qu'on ne doit pas prononcer? Qu'est-ce que ça dit de notre regard sur les femmes qui vieillissent? Quel intérêt d'être si jeune, tout en faisant si vieux? Ça, c'est pour vous, Mathieu Noël. Et c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. On
plaisir.
En parlera au moment
bisous.
De négocier la saison 3. Elsa Wolinski, Claire Fournier, cette expression d'âge critique que nous a rappelé Cyril, alors évidemment aujourd'hui elle est très datée, elle est connotée,
quand même,
mais
oui.
est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de critique au sens médical du terme? Est-ce que la ménopause c'est un danger pour la santé de la femme?
Alors déjà, entre autres idées reçues aussi, à l'époque de Gardanne, on pensait que le sang qui ne coulait plus circulait dans le corps de la femme et
pouvait même
monter au cerveau et ça créait des maladies très très graves. Alors est-ce que c'est l'âge critique, c'est un âge qui est compliqué parce qu'effectivement, il y a ces symptômes qui vous débarquent dessus à partir de 45 ans, hein, donc au moment où vous vous sentez quand même encore très jeune, ce qui était mon cas parce que moi, par exemple, j'avais une fille de 6 ans, donc je ne me sentais pas très très vieille. Et effectivement, il peut y avoir des symptômes assez pénalisants, comme des difficultés à dormir parce que vous avez des sueurs nocturnes, que vous avez des pertes de mémoire, que vous avez évidemment les fameuses bouffées de chaleur. Oui. Alors, toutes les femmes n'ont pas les mêmes symptômes, mais c'est vrai que ça peut être un âge compliqué. Et vous ajoutez à cela tout l'aspect psychologique qui vient quand même d'une société très centrée sur le jeunisme et qui fait que tout d'un coup, vous êtes rangé dans la catégorie des vieilles et que ça fait mal.
Et qu'est-ce qu'on se sent mal ?
On sent forcément mal, c'est une question très, très innocente que j'ai envie de vous poser, parce qu'on dit que toutes les femmes sont pas égales face à la ménopause, ouais, mais globalement, quand même, on sent mal. Il n'y a pas personne qui l'a dit très bien.
Globalement, je ne sais pas, mais il y a quand même, vu de tous les messages qu'on reçoit depuis le début du podcast Allez J'ose, nous, quand on l'a sorti, on ne s'attendait pas du tout à un tel succès. C'est-à-dire, on a 100 à plus de 100 messages par jour de femmes qui nous remercient en nous disant, mais heureusement, vous mettez des mots sur nos mots.
Mais parce qu'avant, ces femmes, elles ne pouvaient pas en parler à leur entourage. Ça reste un tabou au sens où on n'en parle pas à ses proches, on n'en parle pas à son mari, on n'en parle pas à ses enfants, ses copains, ses copines.
Ben non, on n'en parle pas.
Parce que c'est honteux,
C'est terrible, parce que c'est terrible de se dire que c'est honteux, mais c'est terrible de se dire que parce que t'as des bouffées de chaleur, t'as la trouille de le dire à ton voisin ou à ta voisine, parce que tu dors mal. Moi, j'ai des brouillards cognitifs. Moi, par exemple, être ici, je suis morte de trouille, alors que d'habitude, j'ai un débit de ouf. Et ben là, j'ai des brouillards cognitifs depuis 3 jours. J'ai jamais eu ça de ma vie. Un brouillard cognitif, c'est...
C'est quoi ?
T'es teubé, t'es un peu teubé. En fait, tu sais plus, tu te dis, qu'est-ce que je fais là?
T'es une répartie comme une personne qui est en duplex. Tu vois, ça a été un, deux, trois secondes avant d'avoir
un petit décalage. Il m'a posé ça. Alors, de quoi je parle?
Vous m'avez l'air bien en forme quand même,
non,
Elsa.
Non, mais je vous assure, en fait, la ménopause ou la périménopause, c'est pas une petite chose. C'est un putain de chamboulement de vie qui peut durer sur 10 ans. Enfin, il faut qu'on s'en occupe.
Il faut qu'on en parle, surtout pour être prévenu. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de parler de ménopause et a fortiori de périménopause? Comment traverser cette période sans trop souffrir ou comment réussir à en parler surtout autour de soi? On continue de parler de la préménopause avec Elsa Volinsky et Claire Fournier juste après Malik Judy, Vivant sur Inter.
Je suis enfin vivant. Vivant comme je l'aime. Surtout les doutes qui s'ajoutent. Ce n'était pas le bon moment pour rencontrer ta peau, se jeter à l'eau et pouvoir garder l'élan. Mais aujourd'hui j'ai 20 ans, je suis presque devenu grand. Il était temps de prendre l'âge, j'étais à bout de souffle. Maintenant je nage sur ma presqu'île. Thank you.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Vous ne connaissez déjà pas grand-chose à la ménopause, alors accrochez-vous parce qu'aujourd'hui avec nos invités Elsa Wolinski et Claire Fournier, on zoome sur la périménopause. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'est cette périménopause et pourquoi c'est important de l'identifier ?
Alors la périménopause, c'est ce qui arrive avant la ménopause. Le problème, c'est que ça peut durer très longtemps. Ça peut durer entre un an, deux ans, trois ans avant qu'on soit officiellement ménopausé. Et là, comme on le sait, c'est qu'on a plus ses règles pendant un an. Voilà ce que disent les médecins, a priori. Et alors, si on se tourne vers Internet, ce qui est toujours la bêtise qu'on fait quand on se sent pas bien, on tombe sur un déluge de symptômes possibles qui sont souvent sous le signe de la perte, donc perte de sommeil, perte de mémoire, perte de libido, perte de cheveux. Donc voilà, là vous vous dites bon ça y est, en gros je suis foutu quoi, je suis passé du
périmé,
je suis périmé. Bah périménopause, il y a périmé dedans hein, déjà, donc c'est pour ça qu'on aime pas trop
le mot.
Ouais, faudrait peut-être en inventer un autre.
Mais il y a pause dedans. Et faire une pause, c'est pas si mal aussi.
C'est pas si mal.
C'est pas négatif de faire une pause.
Mais le problème, encore une fois, c'est que il y a des symptômes, mais comme ils sont pas très bien répertoriés scientifiquement, qu'il y a très peu de recherches, que les médecins sont quand même assez peu formés et sensibilisés. Je parle pas des gynécos, je parle des médecins généralistes. Ils savent pas toujours très bien où vous orienter et vers quoi vous orienter pour que vous vous sentiez mieux.
J'ai l'impression que cet après-midi, on s'adresse aux femmes, évidemment, mais on s'adresse aussi à la recherche. On a l'impression que c'est un secteur qui a été complètement délaissé. C'est-à-dire, oui, ben c'est comme ça, c'est la nature. Débrouillez-vous, quoi. Mais débrouillez-vous, mais les symptômes.
Ce que tout le monde dit, c'est que si les hommes avaient les bouffées de chaleur qu'on peut ressentir ou ne dormaient pas la nuit, comme ça peut nous arriver.
Il y aurait 36 médicaments.
Voilà, ouais, vous avez tout compris.
Il y a des médicaments qui existent, il y a des traitements qui existent néanmoins.
Il y a le traitement hormonal que moi je prends et qui m'a un peu sauvé la vie. Mais, et puis il y a plein d'autres petites choses aussi qu'on peut prendre.
L'homéopathie.
L'homéopathie, oui.
L'acupuncture, etc. Parce qu'encore une fois, ça ne dure pas 150 ans non plus. Ouais. Hein. C'est une transition, c'est une période de transition, la périménopause. Une fois qu'on est ménopausé, il y a d'autres problèmes de santé qui peuvent se poser, mais c'est plus les mêmes.
Et là, on parle de traitements physiques, mais par exemple, les traitements psychologiques, on vous recommande d'aller chez le psy, de prendre.
Non, pas nécessairement, parce que ça vient pas avec une dépression forcément. Mais là où il est important de savoir que un petit symptôme dépressif peut accompagner la périménopause, c'est que vous ne vous fassiez pas, par exemple, prescrire des antidépresseurs si c'est pas une dépression, si c'est juste une chute d'hormones. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'Elsa, comme moi, on milite pour qu'il y ait plus d'informations autour de ça.
Oui, parce que souvent, souvent. On nous met sous antidépresseurs. Moi, j'ai vu des gynécos qui m'ont dit non, mais on va vous mettre sous antidépresseurs. Je dis mais c'est pas une dépression. Je vois bien qu'il se passe quelque chose d'autre en fait. Et heureusement que j'ai pas été mise sous antidépresseurs.
Il ressemble à quoi votre traitement hormonal aujourd'hui?
C'est une gélule que je prends et il y a un petit gel que je mets comme ça.
Entre vos poignets?
Entre mes poignets, d'accord. Ouais.
Alors, faut savoir, pardon, je ne suis pas bien sûr, mais que tout le monde ne peut pas le prendre. Il faut juste faire un bilan avec son médecin.
Oui, il faut d'abord voir son médecin.
Parce qu'il peut y avoir des conséquences, notamment, ça peut favoriser le cancer du sein. Donc, juste, il faut être sûr de ne pas avoir d'antécédents dans sa famille.
On le disait tout à l'heure, on sensibilise aujourd'hui à cette thématique de la périménopause, mais toutes les femmes sont loin d'être égales. Il y a des femmes qui n'ont pas de périménopause, c'est-à-dire qui passent directement, qui sont ménopausées directement sans passer par cette phase de transition.
Oui, en fait, je pense qu'il y en a qui, peut-être, soit sont dans le déni, soit ne prêtent pas attention à leur corps et parce qu'elles ont des symptômes qui ne sont pas invalidants, ne s'en rendent quasiment pas compte.
Non, puis il y a des femmes qui se disent ne plus avoir de règles, faire l'amour comme ça, c'est génial, tant pis, enfin ne plus pouvoir faire d'enfants, c'est la liberté. Il y a aussi des femmes qui vivent ça extrêmement bien, de manière très positive. Et c'est bien aussi de le vivre de manière positive. Après ça, il y a de plus ou moins des symptômes qui sont invalidants.
Elsa Wolinski, Claire Fournier, vous avez toutes les deux, on l'a dit, des podcasts où vous traitez de cette question de la ménopause et de la périménopause, mais les témoignages que vous recevez, vous nous dites qu'il y a du bon, certainement, mais les témoignages que vous recevez sont essentiellement des témoignages douloureux ou des témoignages positifs?
Moi, je reçois beaucoup de témoignages douloureux et je reçois aussi des témoignages d'hommes qui me disent « Mais merci beaucoup parce qu'en fait, je comprends mieux ma femme, je comprends mieux ce qui est en train de se passer, mon couple allait imploser. » Donc en fait, c'est plutôt des...
Ça permet aussi
moi aussi, j'ai des hommes qui me disent « Merci parce qu'elle ne m'en avait pas parlé en fait. » Donc maintenant, c'est un sujet de conversation qu'on peut avoir. Et donc, ce qu'il faut, c'est arrêter de se flageller, arrêter d'avoir honte en fait, parce que c'est juste un cycle normal. normal dans la vie des femmes.
C'est peut-être ce qui est très important à dire, c'est qu'il faut en parler déjà dans le couple, en fait. Il ne faut pas avoir peur d'en parler à son mari, lui expliquer, lui dire voilà ce que je ressens, c'est ça.
Sauf que là encore, comme c'est un stigmate, comme le disent souvent les chercheurs, c'est, les stigmates, c'est contagieux. C'est-à-dire que si vous en parlez à votre mari, il va se dire quoi ? Il va se dire ma femme vieillit, ah, ça veut dire que moi aussi je vieillis. Et donc il peut y avoir une forme de rejet liée à ça. C'est pour ça que ce n'est pas une thématique, puis ce n'est pas glamour, il faut bien le dire. Hein.
Enfin, en tout cas, en 2050, une femme sur deux sera ménopausée. Donc si on n'en parle pas.
Mais Manon, chiffre de 2050, Manon.
J'étais pas prête.
Et voilà. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la périménopause ? Quentin, lui, est venu vous poser la question dans la rue. Quentin, il y a des mots plus faciles que d'autres, mais il y a aussi des matins plus difficiles que d'autres.
Disons que je ne savais pas par où commencer. J'étais un peu perdu, sans doute le reste du sushi mal digéré.
Oh mon Dieu.
Ou de mon retour de pagaie de kayak de JO.
Montrez-moi votre nez.
Ça va mieux la bosse ?
C'est impeccable. Ah,
voilà. Première rencontre du matin, Alexandra, 28 ans, avocate en droit des étrangers, droit d'asile, droit pénal.
Périménopause. Périménopause, c'est tout ce qu'il y a autour de la ménopause.
Ouais, bah alors là, du coup, comment je peux t'aider, moi, parce que...
c'est pas faux, 28 ans, j'avais pas... Mais bon, mais justement, je lui demande si à 28 ans, elle appréhende déjà un peu cette période de la vie d'une femme.
Alors, pendant longtemps, je concevais cette période comme une période compliquée pour les femmes, parce que on entend souvent qu'il y a plein d'effets négatifs sur le corps et aussi sur l'esprit, prise de poids, etc. Et le week-end dernier, j'entendais une journaliste et écrivaine qui s'appelle Élise Thiébaud et qui en fait proposait un contre-discours totalement différent et qui disait qu'en fait c'était une période de libération où les femmes pouvaient enfin faire de la sexualité de manière libérée sans penser à la contraception. En tout cas, une période plutôt heureuse en fait. Et ça allait un peu à contre-courant des discours qui est un peu la mise hors du marché des femmes, quoi.
Maintenant, je rencontre ces deux-là. Ils sont très chics. Elle porte un manteau blanc, elle a le cheveu soyeux, une cigarette Vogue dans la main. Lui, un manteau long, la raie sur le côté, dans ses cheveux blancs. Bonjour, je peux vous embêter ?
Bien sûr, bonjour monsieur.
Bonjour.
Quels sont vos prénoms ?
Michel.
Anne.
Vous avez quel âge l'un et l'autre ?
74 ans.
Pareil.
Vous faites quoi aujourd'hui ?
Retraité.
Glande. C'est pas une expression d'aujourd'hui, glandée ?
Si, un mot de jeune, évidemment, glande. Je leur fais lire le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Périménopause. Péri,
la définition, c'est la période un peu avant. Les 2 à 4 ans avant, avec bouffées de chaleur, règles inconstantes, etc.
Moi, dès que les bouffées de chaleur se sont manifestées, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai vu mon gynécologue. Je lui ai dit, alors, me réveiller la nuit avec des bouffées de chaleur, j'en veux pas. Traitement hormonal, oestrogène, progestérone. Et voilà, réglé.
Solutionné. Et alors, son conjoint, son compagnon, Michel, comment il a vécu ce moment ?
Honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je comprends bien, sur un plan purement physique et intellectuel, ce que c'est que la ménopause. Les rapports que j'ai pu avoir avec Anne depuis des années, ça n'a pas été lié avec le phénomène de la ménopause. Et on n'avait pas de rapport en disant, après-demain matin, tu ne seras plus une femme comme les autres. Ce n'est pas quelque chose qui m'a marqué. Voilà. Pour moi.
Disons
voilà.
Que l'amour les a fait surpasser, surmonter cette période. Mais alors, sexuellement, ça a changé quelque chose ? Le couple me répond.
Pas pour moi. En tant qu'homme, pas du tout.
Oui. Bah, c'est facile, hein. Au contraire, plus besoin de contraception. Parce que la pilule, le stérilet et ne plus avoir de soucis à ce niveau-là, c'est bien.
Ah oui, c'est pas mal. Alors qu'elle raccroche son smartphone, je fais la connaissance d'Eliane, 53 ans, scénariste, les cheveux gris, un bouquet de fleurs qui dépasse du sac.
Oh, la périménopause. Bah, je dois être en plein dedans, je pense. Bah oui, bah, en fait, c'est encore très flou, hein, cette histoire de ménopause. Je sais que maintenant, c'est un sujet dont on commence à s'occuper un petit peu. Donc c'est vrai, quand est-ce que ça commence ? Quand est-ce que ça commence vraiment, on ne sait pas.
Vous
donc,
avez des symptômes, là ?
Oui, j'ai quelques symptômes, mais c'est pas encore ça. Mais je pense que oui, j'ai des symptômes. Vous voulez vraiment qu'on rentre dans les détails, genre.
Ah oui, alors c'est vrai que sur un bout de trottoir comme ça, mais ça peut paraître bizarre, mais oui, on va en parler.
Pour l'instant, il peut y avoir des insomnies, ce qui ne m'était jamais arrivé. Des sautes d'humeur. À un moment donné, on a l'impression que c'est pas tout à fait soi. Enfin, qu'on n'est pas tout à fait nous-mêmes. C'est très étrange.
Comment vous vivez cette période de votre vie de femme ?
Moi, honnêtement, ça va. Moi, j'aimerais bien que ça s'arrête, parce que franchement, j'ai 53 ans. Là, vraiment, pour les femmes qui sont ménopausées, c'est pas facile en fait. Et comme c'est très tabou, on n'en parle pas.
Tabou, certes, ça l'est, comme les règles, tout ce qui touche souvent à l'intimité des femmes d'ailleurs. Mais est-ce qu'elle a l'impression que la société change sur ce sujet ?
J'espère en tout cas que le regard des hommes change aussi un petit peu, pense à prendre conscience. C'est pas juste des petits problèmes de bonne femme, en fait. De voir son corps qui rechange. Déjà, on a galéré quand on avait 13 ans, ça a changé. Là, ça rechange encore. C'est la vie. Mais si on pouvait arrêter de nous dire qu'on est pénible, ça serait quand même mieux, parce qu'en fait, on l'a pas cherché. C'est le corps de la femme, il est comme ça. De la même manière qu'on prend des kilos. Donc, pareil, peut-être nous dire, ah, elle a pris. Ben non, elle n'a pas pris. Elle a juste une ménopause. Là, on a entendu quand même Olivier Véran dire qu'il faisait de la chirurgie esthétique pour prévenir le vieillissement précoce dû à la ménopause. C'est quand même très choquant, cette phrase. C'est quand même très choquant.
Le discours qui progresse, l'expérience qui parle et la société anti-âge, anti-rides, anti-temps qui passe, qui nous rattrape. En abordant le sujet, en discutant avec vous et en faisant cette émission, on se rend compte qu'il serait temps que la périménopause et la ménopause en général soient aussi perçues comme le début d'une libération.
Comment bien négocier sa périménopause déjà en sachant ce que ça veut dire ? On zoome sur cette période de la vie des femmes avec deux invitées chacune à la tête d'un podcast sur le sujet. Elsa Wolinski, votre podcast c'est Allez, j'ose. Et Claire Fournier, vous c'est chaud devant.
Chaud dedans.
Pas chaud devant, effectivement, parce que sinon il n'y aurait pas de jeu de mots. Alors qu'évidemment,
qu'est-ce qui fait chaud dedans ?
Il fait très très chaud. Eliane, on vient de l'entendre, qui nous dit cette phrase, vous avez réagi à ce moment-là, qui nous parle de la ménopause et qui dit « on n'est plus tout à fait soi ». Ça, pour vous, Elsa, ça dit quelque chose?
Ben oui, ben c'est ce que je vous disais, parce que moi, je suis plus tout à fait moi. Là, je le sens bien. J'ai des temps de retard, quoi. J'ai l'impression d'être plus lente, plus fragile. Et c'est difficile d'être plus fragile dans une société qui prône, justement, la vitesse, la puissance, la jeunesse. Donc oui, on se sent en décalage.
Mais après, c'est pas une fatalité. Hein. Encore une fois, c'est une transition. Donc périménopause, c'est avant la ménopause. Et une fois qu'on est ménopausé, comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres problèmes de santé qui peuvent surgir, l'ostéoporose, etc. Mais après, c'est bon. Enfin, on est sorti du tunnel.
Oui,
en plus, on l'a accepté
ça,
psychologiquement.
Fini.
Oui. Enfin, les bouffées de chaleur, ça peut durer un petit moment quand même.
La
baisse d'oestrogène, mais quand il n'y a plus d'oestrogène, a priori, il n'y a plus de bouffée.
Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans votre reportage, c'est par exemple le couple. Lui, en fait, il s'est pas rendu compte quand même.
Il n'a rien vu.
Mais elle n'en a pas parlé non plus. Elle n'a pas abordé le sujet. Je pense que ce qui change aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les femmes vont aborder le sujet.
C'est quand même moins d'une femme sur deux qu'en parle à son conjoint.
Mais justement, ils en parlent, ils l'évoquent un petit peu, vous l'avez aussi évoqué, mais est-ce que la périménopause influe sur le désir sexuel des femmes ?
Oui, ça peut.
Écoutez, je ne sais pas, je ne fais pas l'amour. Mais j'aimerais bien, mais comment vous dire, j'ai toujours plein de désirs.
Il y a quand même, encore une fois, ça n'est pas scientifiquement prouvé, puisqu'il n'y a pas beaucoup de recherches, mais il peut y avoir une baisse de libido, il y a aussi un inconfort, parce qu'il y a une forme de sécheresse, voilà. Donc, encore une fois, il y a des remèdes, donc tout va bien, on peut faire l'amour différemment, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut aborder avec son conjoint. Donc c'est pas la fin de la vie sexuelle, mais il y a un petit changement, et puis comme psychologiquement, on peut se sentir effectivement un petit peu démonétisé, parce que c'est quand même une porte d'entrée vers la vieillesse, quoi qu'on en dise. En tout cas, c'est ce que la société nous renvoie. On n'a peut-être pas la tête à ça. Et puis, c'est des âges aussi où les enfants grandissent, où peut-être la carrière, c'est un tournant difficile à gérer, où les parents...
Oui, ça fait souvent beaucoup de choses en même temps.
Occupés, il y a beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est l'âge, en plus, c'est pas un âge très, très facile. Et en plus, les bouleversements physiologiques qui arrivent là-dessus, ça fait un peu beaucoup.
Mais on sent que c'est quand même plutôt facile d'en parler dans la rue. Moi, j'ai pas eu trop de mal à aborder ce thème-là avec les femmes que j'ai pu rencontrer. Mais Alexandra, 28 ans, nommait le travail de l'autrice Élise Thiébaud, je vous ai vu acquiescer, qui parle d'un moment qui peut être aussi agréable. Est-ce que c'est bien qu'on le nomme aussi comme ça ?
Oui, mais alors, je connais bien son livre, je viens de le finir. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bien sûr, ça peut être une forme de liberté. C'est comme Florence Foresti quand elle dit c'est une crise d'adolescence avec la carte bleue. Oui, ça peut l'être, mais en même temps, quand vous avez 50 ans, des enfants qui sont encore à l'école, des bouffées de chaleur, que vous êtes au bureau, que votre patron vous regarde, que vous êtes à des réunions, que vous savez pas quoi faire parce que vous avez des gouttes comme ça qui tombent, il faut se mettre à la place de ces femmes parce que ça existe. Moi, j'en parle encore, j'ai la chance, je ne travaille pas dans un bureau, je travaille dans des métiers de création. Mais si ces femmes souffrent et qu'elles nous écrivent qu'elles souffrent, c'est que ça existe.
Mais Élise Thiébaud, c'est réjouissant son livre, parce que moi je l'ai invitée dans Chou dedans, parce qu'elle parle de réappropriation du corps. Une fois qu'effectivement on a passé le moment transitionnel un peu pénible, comme on n'a plus de règles, comme effectivement il n'y a plus le stress de tomber enceinte, etc., on peut avoir un rapport différent avec son propre corps. Ouais.
Zoom Zoom Zen, le best-of se poursuit. Dans un instant, on parlera de la culture Hesse, comment les marques se sont inspirées des banlieues et comment le luxe a transformé la pauvreté en un objet de convoitise. On décrypte ce phénomène avec le spécialiste de la mode Pascal Montfort. Juste après, Fat White Family, Religion for One sur Inter.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Pascal Montfort.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous étiez déjà venu, Pascal, dans Zoom Zoom Zen et vous nous aviez trouvé tellement stylé que vous êtes revenu. Certainement. Certainement, parce que vous savez que c'est ici que vous allez pouvoir puiser les inspirations de demain. Parce que vous êtes le fondateur du cabinet de tendance Rec Trends Marketing. Vous conseillez des acteurs de la mode, du sport et de la beauté. Vous enseignez la sociologie et l'histoire de la mode. Et vous venez d'ouvrir, je le signale, une boutique éphémère à Paris, Éphéméra, où vous exposez et vendez votre collection d'invitations, de livres, de photos, tout un tas d'objets autour de la mode.
Waouh, c'est impressionnant.
C'est fou de se dire que vous faites tout ça.
C'est
dans
en tout
une
cas
seule vie.
Sans faute. Alors je fais tout ça. On fait tout ça au sein de mon cabinet. On est 9 personnes en permanence. Il y a une équipe qui travaille avec moi aussi sur le projet Éphéméra et ça fait longtemps qu'on travaille ensemble.
Il y a même un caméraman qui vous suit maintenant. On sent que vous êtes vraiment monté en puissance médiatiquement depuis la dernière fois.
Ouais.
D'abord, Pascal Montfort, parler de cette Hesse culture. Est-ce que c'est faire de la récupération ou est-ce que c'est tout simplement le cycle naturel de la mode qui s'inspire d'absolument tout et de tout le monde?
Alors c'est complètement naturel dans la mode, c'est-à-dire que la mode, on peut être pour ou contre, mais on ne peut pas être sans. c'est en se révoltant contre elle qu'on lui obéit le mieux. Ouais. C'est-à-dire que la mode a besoin de se nourrir en permanence de nouveautés et de nouveautés qui émergent, notamment des jeunes et surtout des milieux qui ne sont pas des milieux favorisés. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Je vous ai amené avec moi, j'ai amené avec moi la Bible des Bibles. Hein. C'est un livre anglais qui s'appelle Street Style de Ted Polemus, un livre de 94, qui retrace à peu près tous les mouvements, les Ootys, les Azou, les Bikers, les Teddy Boys, les Mods.
Et on voit que tout vient de la rue.
À chaque fois, ça vient de la rue et à chaque fois, ça vient de milieux très populaires.
On va en parler durant cette heure. Nous sommes justement le 30 juin 1994. À la sortie du Why Not, Cyril Lacarrière guide Jessica Moulot, titubante, vers la 106 Roland-Garros. La veille, il a découvert un nouveau groupe phare de la Hesse Culture qui, pense-t-il, va lui permettre d'envoyer un message assez clair à Jessica. Il allume l'autoradio.
C'est pas possible.
J'ai oublié l'existence.
La Hesse Culture, c'est aussi les Poetic Lovers, Cyril.
La vôtre de culture. C'est la vôtre de culture, Mathieu.
Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Adé, bonjour à tous.
Ne salissez pas nos souvenirs communs.
Ouais. On était ensemble dans cette 106, non ?
Je ne sais pas. Alors, vous l'incarnez si bien, cette Hesse Culture. Ouais. Racontez-nous d'où ça sort.
Eh bien, de l'argot, cher Mathieu. De l'argot français, certes, mais avant ça, de l'argot algérien. Et sauf erreur, c'est la première fois que l'argot algérien fait une incursion dans ce d'où ça sort et plus largement dans Zoom Zoom Zen. Hesse est en fait un mélange de deux termes, le mot arabe Hesd, qui signifie volonté de nuire, et du mot algérien, pardonnez-moi pour la prononciation, lias, qui signifie le fait de lécher un plat, avec l'intention de ne surtout pas en perdre une miette. Le premier sens de ce hes, c'est donc de signifier que c'est la galère, que c'est la dèche, bref, qu'on n'a plus un rond. Ça, c'était pour l'origine du mot. Au passage, vous noterez que ce hes a une particularité dans la langue française. On prononce le H, on l'aspire en fait, ce que normalement on ne fait pas en français. On dit hôpital, pas hôpital, et on dit hélicoptère, pas hélicoptère. Voilà. Voilà une
c'est
raison.
Fou, cette démonstration c'est est étonnante, assez stupéfiante.
Mais c'est une raison de se féliciter d'avoir une langue bien vivante, cher Mathieu.
Mais bien sûr, félicitons et félicitons-nous. Cyril, pour en revenir à la hes, le sens a évolué là aussi.
Oui, et c'est pour ça que de la génération hes, on est passé à la hes culture, comme si la précarité était devenue une tendance, ou en tout cas une inspiration culturelle. Preuve qu'on s'est bien éloigné du sens d'origine, ce morceau.
Partout c'est la hesse, on rêve de CLS. Y'a ceux qui tapent dans un ballon, ceux qui tapent dans la cesse. Ouais, partout c'est la hesse, refrain partout c'est la zermi. Y'a ceux qui rentrent au bled et y'a ceux qui rentrent au tarmi. J'suis parti de rien, j'ai dit un jour j'serai le best. Robe, tu sers à rien, t'as le flow d'une danse sagesse.
Les rappeurs Zifou et la Fouine dans le morceau, c'est la hasse. Dans le clip, les deux sont à bord d'une Ferrari F430. Je peux vous dire qu'il est loin le temps où on léchait les plats. Parce que la culture hesse, ce n'est plus pour nous dire qu'on est dans le dur, c'est plutôt pour raconter une manière de vivre presque ostentatoire, presque du bling-bling, et on n'y est pas loin. Alors, comment est-ce que cette S-culture infuse dans la société? Quelles sont les marques qui s'en inspirent? Est-ce que Lacoste fait encore la mijaurée avec les rappeurs qui portent sa marque? Est-ce que la banlieue se fait récupérer, se fait piquer son âme? Peut-on revendiquer la culture S quand on habite dans le 16e? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Beaucoup de questions, Cyril. Hein. Beaucoup de questions après cette performance buccale que vous avez livrée avant ça. C'était très impressionnant. Merci Cyril. Pascal Monfort, qu'est-ce qui reste justement des origines de cette génération Hesse, de ces galériens, de cette Hesse culture, telle qu'on en parle aujourd'hui? Pas grand-chose finalement, j'ai l'impression que c'est plutôt une forme de réussite aujourd'hui, la Hesse.
Alors la Hesse est une forme de réussite, oui, mais il reste quand même une réalité permanente et des jeunes gens pour qui le quotidien est difficile et pour qui justement la création est souvent une solution. En tout cas, quand on a une vie qui nous oblige à être nécessairement plus combatif que les autres, plus déterminé, plus curieux aussi, souvent ça donne naissance à des choses assez fantastiques. Et il faut savoir que les milieux populaires ont toujours été les berceaux de ce qui apportait de la nouveauté dans l'air du temps et dans la création. Donc effectivement, je ne sais pas si ce qui nous intéresse c'est vraiment les galériens, mais en tout cas la vie réelle.
Cette image, elle est toujours la source d'inspiration.
Elle est une source d'inspiration.
Même quand on roule en Ferrari ensuite.
Même quand on roule en Ferrari, mais de toute façon, vous savez, il y a énormément d'artistes qui aujourd'hui sont... alors, on a parlé de rappeurs, mais je peux vous parler aussi d'artistes contemporains qui exposent dans des grands musées aujourd'hui, ou de réalisateurs...
Ou de chorégraphes aussi.
Français, de chorégraphes, Spike Lee et d'autres. Alors, ce sont des gens qui n'ont rien oublié, et souvent qui ne dénigrent pas leur passé, et souvent qui ont envie de continuer à y habiter. Alors, dans des conditions certes moins précaires que lors de leur jeunesse, mais néanmoins qui ont besoin d'être entourés de cette énergie, de rester avec leurs potes d'antan, etc. etc.
Un tout petit mot pour finir cette partie sur ces marques qui n'ont pas senti le vent de l'histoire, si j'ose dire. Lacoste, au début, en banlieue, on portait des Lacoste et la marque Lacoste était contre. Et aujourd'hui, j'imagine qu'ils ont complètement changé d'avis sur la question. Ils sont contents.
Bah, en tout cas, aujourd'hui, Lacoste non seulement accepte, mais célèbre le fait que des communautés à travers le monde, hein, parce que ce n'est pas simplement en France, hein, il y a ce qu'on appelle les Lacosteros au Brésil, sont des mecs qui jouent de la Bailey Funk dans les favelas et qui ne portent que du Lacoste, qui ont des tatouages de Lacoste, qui dansent avec des parapluies Roland Garros, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, les marques ont compris qu'il fallait célébrer en fait les communautés qui ont participé à son succès et à son histoire. C'est valable pour Nike, c'est valable pour plein d'autres.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
C'est fou comme la Hesse culture a changé depuis les Poetic Lovers, me disait Cyril à l'instant en régie. Oui, zoom aujourd'hui sur cette street culture, cette Hesse culture qui est sortie de la banlieue pour se propager à tout l'univers artistique, du cinéma à la mode jusqu'à l'industrie du luxe. On en parle avec un spécialiste des tendances justement, Pascal Montfort. Alors déjà, c'est pas dans le Larousse, hein, Hesse. Comment est-ce que vous définiriez cette Hesse culture dont on parle aujourd'hui ?
Bah, je pense simplement que c'est ce que vous avez expliqué, c'est la complexité du quotidien. Encore une fois, c'est pas nouveau. Hein. Renaud chantait chantait les loubards et la banlieue, et la complexité du monde populaire. Enfin, les punks sont nés sous le régime Thatcher quand il y a eu croissance du chômage, complexité avec la police, incompréhension des jeunes de la part du monde des adultes. C'est toujours les mêmes histoires, quoi. C'est de l'argent, de l'incompréhension, du racisme, des choses comme ça. Et ça fait toujours naître des contre-cultures, donc des cultures qui s'opposent à la pop culture, et donc que les anglo-saxons appellent les subcultures, et de ça, des arts visuels, un style vestimentaire, une musique, des choses comme ça.
Ouais, mais ça, Pascal, aujourd'hui, on pourrait presque dire que le rap étant devenu, par exemple, la musique dominante, ils sont devenus tellement mainstream que c'est plus une contre-culture, c'est la culture, tout simplement. C'est la culture des jeunes. Donc, il faut peut-être que la mode, va à un moment, peut-être puiser ailleurs dans quelque chose de plus révolutionnaire.
De toute façon, la mode puise aussi ailleurs. En tout cas, ne puise pas simplement dans le hip-hop, puisque c'est de ça dont vous faites, vous parlez. Mais en tout cas, la Hesse culture pourrait s'appliquer à d'autres environnements, hein. En l'occurrence à travers le monde. En Angleterre, elle se traduit un peu différemment. C'est pas forcément du rap français qui est sujet, mais ça va donner naissance à d'autres mouvements musicaux. Il y a des styles vestimentaires qui vont être un petit peu différents. Je vous parlais des favelas tout à l'heure. Je pourrais vous parler même en Asie, il y a des subcultures qui naissent des banlieues de Tokyo. Voyez toutes ces.
Elles ressemblent aux nôtres. Ça ressemble à quoi les subcultures à Tokyo?
Eh bien, alors, il y en a certaines qui miment les nôtres, et certaines, justement, qui vont puiser dans les nôtres de temps passé, hein, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de rockers, de mods, de punk.
À Tokyo.
Ouais, à Tokyo. Exactement. Et puis, il y a les leurs, les banlieusards Bozozoku, ce sont des banlieusards qui trafiquent leurs motos mi-course, mi-truc, avec des casques sur lesquels ils mettent le symbole Banzai. Enfin, il y a des tonnes de subcultures, et vous savez que même les jeunes filles hyper kawaii qu'on va prendre en photo sur le pont de Harajuku au cœur de Tokyo, ce ne sont que des jeunes filles qui viennent des banlieues avoisinantes de Tokyo, qui prennent le train, qui se changent dans le train, qui viennent, passent la journée à se faire prendre en photo et qui repartent.
Est-ce que dans le monde du luxe et dans la mode, du coup, il y a eu un shift quand même avec Louis Vuitton, avec Kanye West qui a commencé à faire des collabs, avec Virgil Abloh qui est devenu directeur de la marque? Est-ce que Louis Vuitton, ça cristallise quelque chose en fait de la street et de tout ça?
Alors si je fais vraiment mon expert, il y a eu d'autres exemples avant, hein, mais il y a eu Dior, il y a eu Kim Jones, il y a énormément de créateurs. Même Jean-Paul Gaultier allait puiser son inspiration, ce qu'il disait dans la rue. Et même si on remonte à Chanel elle-même, est issue d'un milieu extrêmement populaire. Elle a ce qui lui a permis d'observer avec beaucoup de minutie la façon dont vivaient les gens confortable et justement de trouver leur travers et tout ça quoi. Mais pour revenir à ça, effectivement, Vuitton sous le règne artistique de Virgil Abloh, ça a été vraiment c'est le cataclysme, c'est vraiment l'explosion. Ça a permis de vraiment rayonner à travers le monde et ça a permis à énormément de gamins de reprendre confiance, de s'inspirer. Ça a attiré plein d'autres créatifs.
La Hess Culture, on continue de zoomer dessus. Pour lui, le rap s'est arrêté en 1982 quand Chagrin d'amour sortait.
5 heures du match, j'ai des frissons.
Il avait acheté le 45 tours. 15 francs à l'époque, ça te faisait cher.
Hein. Procès, c'est l'insomnie. Ah bah ouais.
Mais tu sais plus la suite ?
Et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. Un Kleenex et bouteille vide. Je suis voilà. Tout seul.
Il est l'anthologie de la chanson française.
Sauf que la différence, c'est qu'en 82, moi, j'étais pas né. Vous, oui.
Oui, je venais de naître. Ouais, ouais. Fin d'année, souvenez-vous, en novembre. Attention, attention. Vous écoutez France Inter et vous faites bien. Dans quelques instants, certainement bardé d'une nouvelle doudoune Balenciaga, justement hors de prix, l'apôtre de la Hess Culture suisse, Yann Marguet, va nous rejoindre. Mais d'abord, quittons cet esprit banlieue qui donne des boutons à Carole Buisson. Reprenons le droit chemin, celui d'une France blanche et catholique, que vous appelez de vos voeux, Manon, sous pseudo, vous chinez sur le site Droit au cœur, les gens ont le droit de savoir. Manon, justement, que se passe-t-il sur les réseaux? C'est tout l'objet de votre veille sanitaire. Et aujourd'hui, breaking news, une nouvelle version de TikTok fait son apparition.
TikTok Lite, L-I-T-E pour léger en anglais. Une application lancée en France et en Espagne dont absolument personne n'a entendu parler, sauf les auditeurs de France Inter ce matin dans le journal de 8h et le journal Le Monde parle d'ailleurs d'un lancement en catimini. Et quand on voit le concept, c'est pas très étonnant que TikTok n'ait pas voulu en faire des caisses niveau promo. Car TikTok Lite a pour but de récompenser les utilisateurs qui passent un maximum de temps sur l'application. À l'heure où les débats sur le temps d'écran des ados font rage, c'est culotté de sortir une application qui a vocation à les inciter à rester sur leur smartphone.
Alors expliquez-nous le concept.
En fait, TikTok Lite se présente comme le TikTok normal, sauf qu'elle a un centre de récompense qui nous permet de gagner de la monnaie virtuelle. Pour ça, c'est simple. Il faut liker des photos, se connecter au moins une fois par jour à l'application et surtout scroller au maximum. Car notre temps de visionnage est converti en monnaie virtuelle. Par exemple, pour 10 minutes de temps cumulé, on remporte 1500 pièces virtuelles. Et pour 3 vidéos likées ou 3 comptes suivis, c'est 150 pièces virtuelles. L'objectif quotidien présenté par l'application est d'obtenir au moins 3600 pièces, ce qui équivaut, tenez-vous bien, à 36 centimes d'euros. Bon, on n'ira pas loin, on est d'accord. Et cette monnaie virtuelle pourra ensuite être convertie soit en bon cadeau chez Amazon d'une valeur maximum de 500 euros, soit en carte cadeau via PayPal. Un joli coup pour TikTok qui s'associe avec deux plateformes mondiales qui cartonnent. Et puis cette monnaie pourra aussi servir à offrir des cadeaux virtuels à ses influenceurs préférés.
En parlant de PayPal, qui est votre ami Paul, c'était PayPal je pense. Comment ça se passe concrètement?
Alors je vous en avais déjà parlé, mais beaucoup de TikTokers aujourd'hui gagnent de l'argent grâce à leurs lives, des lives où ils encouragent leurs abonnés à leur faire des dons virtuels pour les soutenir. Des dons qu'ils convertissent ensuite en véritable argent. En fait, TikTok Lite n'est pas un réseau social, mais une forme de jeu interactif. C'est bien pensé, car du coup, on se dit pourquoi aller sur l'appli originale si on peut gagner de l'argent sur une autre application. C'est ludique et surtout très perfide. Ça marche d'autant plus sur les jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Si on leur vend des bons Amazon qu'ils peuvent obtenir juste en scrollant sur leur application préférée, j'ai envie de dire, c'est le rêve.
Et donc, en fait, vous validez?
Pas du tout. Car comme je le disais en début de chronique, TikTok est quand même hyper culotté de sortir ça maintenant. Je rappelle que les études concernant le temps d'écran chez les jeunes sont totalement flippantes. Les 3-17 ans passeront en moyenne 3 heures par jour devant les écrans. Et je vous parle quand même de très jeunes enfants et de mineurs. Les écrans aussi qui les rendent plus anxieux et plus dépressifs. Du coup, depuis quelques temps, c'est devenu un vrai sujet pour la classe politique qui cherche des solutions pour limiter le temps d'écran qu'on passe sur son téléphone. Et c'est donc aussi devenu un sujet pour les réseaux qui doivent montrer qu'ils se préoccupent de la question. TikTok a par exemple mis en place des fonctionnalités pour limiter son temps d'écran sur l'application, notamment pour les ados. C'est donc totalement malvenu de faire l'inverse avec TikTok Lite qui n'a qu'une vocation, passer encore plus de temps sur notre écran. Biden, l'entreprise derrière TikTok, se justifie en disant que l'on peut tout de même limiter son temps, que l'on ne peut pas dépasser un certain nombre de points gagnés par jour et surtout que l'application est interdite aux moins de 18 ans car il faut montrer une carte d'identité à l'inscription. Bref, on connaît, autant vous dire que c'est très facilement contournable. En fait, il faut choisir son combat. On ne peut pas à la fois faire de la prévention et s'engager pour la santé. santé mentale des jeunes et en même temps créer une application qui va les rendre plus addicts. C'est quand même un petit peu hypocrite. En tout cas, à mon avis, ça ne va pas plaire à la Commission européenne, hein, qui a déjà TikTok dans son viseur pour ses manquements vis-à-vis justement de la protection des mineurs. Avec TikTok Lite, l'entreprise tend vraiment le bâton pour se faire battre.
Merci Manon Mariani. Dans un instant, Yann Marguet viendra nous dire s'il se sent à l'aise quand il claque 3000 euros chez Balenciaga pour une veste inspirée d'un ouvrier de chez Renault. Mais avant, voici Pigeon John, The Bomb sur Inter.
I got my trucks and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Show, but three to be a legend, even if I'm poor. I ain't chasing nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna taste, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. All my molly ring walls and my little scarecrows. When they hear my record, well, they all hit the floor. Baby's rock a pose, come up in the front row. The homies in the back, get the hats to roll. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Everybody, won't you clap your hands? White folks, do it on time if you can. Sounds good, now here's the plan. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. 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 Now we gonna reach another whole new level. Grabbing the light on the run from the devil. Been downtown for too long. I feel the sun rising on the green light. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and I'm about to blow up. Whoa.
France Inter, Zoom Zoom Zen. Je parlais l'autre jour de lui avec Coluche et des proches et eux-mêmes me confiaient qu'ils en avaient marre de lire des commentaires sous leurs vidéos disant « Rendez-nous Yann Marguet », même s'ils comprenaient. Pour nous parler de la Hesse, merci d'accueillir l'immense Yann Marguet.
Et Mathieu, je sais ce que vous pensez, hein, la Hesse n'existe pas en Suisse, tout le monde est riche, intégré et pusillanime, je ne sais pas ce que ça veut dire mais ça clôt bien la liste. Eh bien détrompez-vous, c'est sûr, hein, qu'en traînant que à la rue du Rhône à Genève comme vous, c'est pas la diaspora saoudienne qui va vous rappeler la Seine-Saint-Denis, mais il y a de la galère, il y a du hustle, il y a du rap même. Ah. J'en profite pour saluer un bon ami à moi, poète de la street, qui, je le sais, nous écoute. Salut à toi, mon galérien Jean Barthélémy, puisse les rues de Montreux être clément. La Hesse donc, quoi vous dire sur la Hesse ? Eh bien un mot emprunté à l'arabe, hein, comme beaucoup d'idiomes dans la langue française par ailleurs. En France, c'est vrai que vous aimez pas trop le Maghreb, mais quand il s'agit envie de se servir. Bon, le monde est un buffet, hein. La Hesse, un mot qui désigne en français la galère, le fait de galérer, de chercher à s'en sortir et qui serait devenu à terme un élément culturel, voire un sacerdoce pour une partie de la jeunesse actuelle. Encore une fois, pas persuadé de la définition du mot sacerdoce, mais ça ne m'empêche pas de douter un peu de cet aspect quasi générationnel de la Hesse, hein. Alors générationnel, oui, parce que dans un sens, quand une expression qui vient des quartiers finit par se retrouver dans la bouche d'Arthur et Bertille, respectivement fils d'ophtalmologue dans le 16e et fille de calligraphe à Montreuil, au même titre que Walla, ou encore ma préférée, t'as capté. Petite parenthèse, vous avez remarqué que les personnes qui disent le plus souvent t'as capté sont généralement ironiquement celles qui disent les choses les moins compliquées à comprendre. Putain, je suis tellement puant, je mérite un coup de faiblesse. Bref, quand la Hesse se retrouve dans la bouche de kids qui ne la vivent pas, disais-je, on peut effectivement parler de culture. Cela dit, quand on nous vend cette culture Hesse comme une sous-culture de la Gen Z, là, pardonnez-moi de la violence de ce qui va suivre, mais je crie à l'embobinage. L'esprit de la Hesse, ça existe au moins depuis le rap, hein. S'extirper, réussir, monter, surmonter, et si possible avec les copains, il n'a pas fallu attendre la Gen Z pour ça. Au début des années 80, déjà, ça existait, hein, ce gros rebeu prénommé Bilal, qui se balade en backstage dans un survêt trop serré, et une banane Gucci coincée sous le nichon. Et qu'on sent bien que c'est pas le pingouin qui glisse le plus vite de la banquise, il faisait déjà partie de l'entourage des rappeurs avant 95. Et même plus généralement, il n'y avait pas le mot, certes, mais l'aspiration à exceller malgré les obstacles, ça existe plutôt depuis qu'il y a des obstacles, hein, demande à Simone Veil et Nelson Mandela. Alors certes, on nous parle d'une génération spécifique et paradoxale, tiraillée entre une conscience écologique et l'envie de posséder des bagnoles et des fringues de luxe. Bon bah, oui, bah écoutez, ils prennent ce qu'on leur donne, hein, du capitalisme et de l'éco-anxiété, il n'y a pas grand chose d'autre à se foutre sous la dent ces jours-ci. Et puis pardon, mais je crois qu'il y avait pas besoin de grands débats pour découvrir que les ados étaient porteurs de contradictions. C'est pas la culture S, ça c'est la définition d'être ado. Hein. Ils veulent casser des McDo pendant une manif, puis quand ils rentrent, ils veulent un câlin. Voilà. Hein, ils veulent pas de vos conseils de merde, mais ils veulent bien que vous achetiez du Nutella à Franprix quand vous rentrez du boulot. Et bah pareil, ils veulent sauver le monde, mais ils veulent bien porter du Rick Owens. C'est des ados. D'ailleurs, à mon avis, cette culture S, hein, en tant que concept, c'est encore une bonne combine de marketeux pour leur vendre des merdes, parce que c'est peut-être bien ça la seule chose qui a vraiment changé entre la S des débuts et celle de maintenant. Les premiers galériens achetaient des merdes chères pour élever leur statut social, il y avait une quête, il y avait un sens. Les nouveaux galériens, maintenant, ils achètent un peu des merdes chères, juste pour faire comme les premiers galériens. Et quand les choses n'ont plus de sens, et que, qui plus est, Arthur et Bertie se mettent à parler le langage de la rue, méfiez-vous, parce que les claquettes avec chaussettes intégrées à 700 euros de chez Balenciaga ne sont pas très loin, j'en sais quelque chose.
Oh non, oh non, on me dit pas que t'as acheté ça aussi.
Non, ça n'existe pas.
Ah non, bah, ils vont le créer pour toi, oui. T'es leur meilleur client. Merci Yann Marguet, qu'on retrouve évidemment la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci Pascal Monfort de nous avoir aidé à décrypter cette Hesse culture. Je rappelle votre cabinet de tendance Rec Trends Marketing et votre boutique éphémère Ephemera. Vous exposez tout un tas d'objets autour de la mode. C'est quoi la prochaine tendance que vous pouvez nous dévoiler en exclusivité cet après-midi sur Inter?
Alors ça vaut très cher quand même. Normalement, c'est pas vraiment une réponse à laquelle je réponds avant d'avoir envoyé un devis.
Ah, un devis, et ensuite vous reviendrez vers moi à ce moment-là.
Je crois, ouais.
Très bien, on fera comme ça. Mais c'est vrai que c'est votre métier en même temps. Merci à tous, Quentin Lui, Manon Mariani, Cyril Lacarrière, la maison Figaré qui m'envoie des chemises alors que j'ai rien dit, je sais pas. Aston Martin, je tente le coup, on verra bien. Merci aussi à Mel Caldi, Fanny Léonore Crouzet et Sybille Bulot, sans qui je ne serais qu'un pantin sans corne, un tataillé sans ventriloque, un perroquet 100 mètres. J'en fais peut-être un peu trop, alors expédions les autres remerciements. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce meilleur de Zoom Zoom Zen. On se retrouve lundi pour parler de la solitude urbaine. Comment trouver l'amour quand on vit dans une grande ville? C'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Rendez-vous à 16h sur France Inter pour parler Love in Town.